Le point.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle de l'Euro, le podcast du point sur l'Euro. Tout d'abord, on va vous remercier pour avoir été si nombreux lors du premier épisode. On va pas dire les chiffres, c'est indécent. Mais nous revoici pour un nouveau Tacle de l'Euro. Et aujourd'hui, nos sociétaires, avec un turnover que n'aurait pas renié Carlo Ancelotti, je vous présente nos amis du jour. Le Pérou n'est pas dans l'Euro, mais il a son représentant dans le Tacle de l'Euro, le Rennais Olivier Pérou. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous.
Un petit quiz pour commencer.
Allez-y.
Combien y a-t-il de joueurs Rennais à l'Euro ?
Ah, difficile, difficile. Je vais dire 2.
La réponse est 0. Comme disait la pub, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. À l'avare, un Montbéliard, le Sochalien Emmanuel Durget.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel. Combien y a-t-il de Sochaliens à l'Euro ?
Alors, je crois que c'est un peu plus simple, je dirais 0.
Bravo, bonne réponse. Parfait. Et comme N'Golo Kanté, il est un titulaire incontestable, infatigable récupérateur de nos errements footballistiques, le Bordelais Adrien Mathieu. Bonjour Adrien.
Bonjour, merci encore de m'accueillir.
Combien y a-t-il de Bordelais à l'Euro ?
Et alors, petit piège, je pense qu'il y en a un, Loris Benito.
Il est fort.
Il est fort.
Il est très fort.
Ok, bon. Ouh là là, je crois qu'on va, voilà, on va changer de quiz parce que là, il est très 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 fort. Petit rappel du concept. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton rouge ou carton jaune. Emmanuel, dit la Durge, sera à la VAR et sera impitoyable.
Impitoyable.
Ce soir, c'est le grand soir, c'est France-Allemagne. C'est pour cela que c'est Adrien qui va commencer, qui va nous parler de Danemark-Finlande. Cette émission est bien préparée.
En toute logique.
À toi, Adrien.
C'est un très beau contre-pied. C'est vrai que je voulais parler de Christian Eriksen parce que je pense qu'une fois l'émotion passée, le sentiment d'être passé, c'est vrai, tout près du drame avec le joueur de l'Inter Milan. Je pense qu'il est temps de tirer des enseignements de ce qu'on a vu samedi. Souligner le courage des joueurs et du staff danois, mais surtout se poser la question, voulait-il vraiment reprendre ce match ? Qui finalement n'était qu'un match de groupe et on a l'impression qu'on a un peu forcé la main. C'est vrai qu'on a commencé à parler de valeureux vikings prêts à reprendre le combat après un petit WhatsApp avec leurs coéquipiers, mais plus on gratte la couche de plâtre posée à la va-vite par l'UEFA, plus on se rend compte que cette version est extrêmement romancée. Le coach Kasper Hjulmand a parlé d'un choix imposé, soit reprendre le match, soit reprendre le match le jour même, à 2 heures après, soit le lendemain, à midi. Pas de troisième solution, même si Peter Schmeichel, gardien emblématique de United et père de l'actuel gardien du Danemark, l'a dit, l'autre solution, c'était tout simplement défaite sur tapis vert. Moi, j'ai envie de me poser la question, et surtout, j'ai envie d'être naïf et de croire qu'on peut trouver un compromis pour ce genre de situation. Un match nul, un report de coefficient, on conserve le score au moment où le match est arrêté, c'était 0-0, voilà, on pouvait s'arrêter là. Quand je vois Simon Kjær, héros samedi, qui a consolé ses coéquipiers, la femme de Christian Eriksen, et qui 20 minutes après la reprise du match a dû sortir parce que trop touché moralement, je me dis que tout simplement le match était faussé. C'est pour ça que mon tacle du jour s'adresse à l'UEFA et ses dirigeants, ceux qu'on a présentés comme des sauveurs du football populaire lors de la création de la Super League. Quand on voit leur cynisme vis-à-vis de cet épisode et leur envie frénétique d'augmenter la cadence du calendrier et donc de recettes, je vais vous citer la Conference League, obscure compétition qui opposera le 3e du championnat moldave au champion des îles Féroé, mais aussi de la réforme de la Ligue des Champions qui est totalement insipide en passant de 180 matchs au lieu de 96, ce fast-food maker. Je pense qu'il est essentiel de le dire, en tout cas, non, l'UEFA n'est pas de notre côté et le cas Eriksen le prouve.
Voilà, là, c'est un tacle très offensif.
Tacle à la gorge, les deux pieds en l'air, ouais. Ouais, très offensif. Mais alors, je suis d'accord, évidemment, ce match était bizarre, mais en même temps, derrière, il y a une compétition à faire jouer. Alors oui, peut-être le 0-0, ou peut-être tout simplement le report du match au lendemain. Le match sur tapis vert, j'y crois pas. Perdu sur tapis vert, j'y crois pas. Ils auraient peut-être dû aussi, les joueurs danois, dire bah non, on peut pas reprendre. On sait la puissance des forces des joueurs. S'ils en parlent avec les Finlandais, ils auraient trouvé un accord. Là où je vous rejoins, c'est sur le cynisme de l'UEFA, qu'on a présenté comme des pères du petit peuple il y a peu. Et en fait, on se rend compte avec cette histoire que pas du tout. Donc, voilà, tacle violent, mérité, mais...
Tacle régulier, donc.
Tacle régulier, mais en même temps, c'est une compétition aussi, hein, il faut l'amener jusqu'au bout.
Moi, je vais mettre un carton jaune. parce que Adrien, c'est un peu oui-oui, découvre le foot. Et donc, il découvre que l'UEFA est cynique. Mais Adrien, je te rappelle qu'en 2017, si mes souvenirs sont exacts, quand il y a un attentat contre le bus de Dortmund, contre l'AS Monaco, en huitième de finale, quart de finale de la Ligue des Champions, les joueurs de Dortmund ont eu l'obligation de jouer le lendemain, alors qu'un joueur avait été blessé par
l'attentat. Marc
Bartra. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. Après, c'est vrai que c'est très compliqué d'organiser un match, de le reporter pour des questions de sécurité, des organisations.
D'argent, faut le dire.
Le fait aussi que, bah, du coup, le Danemark et la Finlande auraient eu un jour de moins pour se reposer par rapport au prochain match. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et finalement, bon, bah, ils ont joué. Ils ont joué aussi pour Eriksen. C'est un beau symbole. Moi, je trouve qu'il y a peut-être une polémique un peu exagérée. Et j'ajouterais que les joueurs aussi peuvent se rebeller.
Voilà, c'est ça.
On l'a vu lors du match contre les Turcs du PSG en Ligue des Champions. Ils ont décidé d'arrêter de jouer. Ils sont rentrés au vestiaire. C'est eux qui ont pris la décision. À un moment, les joueurs aussi, ils doivent prendre leur courage à deux mains et dire bah non, on peut pas jouer. On a quand même réanimé notre collègue. On jouera pas.
Non, c'est très juste. J'entends absolument vos arguments et je l'ai dit. En plus, j'ai envie d'être naïf. C'est que j'ai bien conscience d'avoir un discours un peu trop utopiste face à cette pieuvre qu'est l'UEFA. C'est très bien les exemples que tu as cités. C'est vrai que là, j'ai envie d'entendre l'UNFP, la FIFPro, les fameux syndicats de joueurs qui de temps en temps, on les entend quand il y a des problèmes de salaire. Par contre, sur des cas aussi graves, j'ai l'impression que c'est aux abonnés absents. Et c'est vrai que quand en fait je vois le rythme des matchs, des joueurs qui vont de plus en plus jouer des saisons à 60-65 matchs, j'ai l'impression que personne prend leur défense et personne n'ose dire à un moment faut qu'on arrête.
Oui, après c'est les joueurs aussi et les présidents de club et les entraîneurs qui doivent dire on stoppe ces cadences infernales. Voilà. La VAR, la Durge.
Tacle licite parce qu'il était évidemment nécessaire de le faire. C'est une question, la santé des joueurs et des sportifs qui pose beaucoup de questions dans tous les sports. Après, tes deux camarades ont eu raison de rappeler évidemment que l'UEFA était là pour organiser une compétition. Il y a des enjeux financiers. On sait le pouvoir de la communication dans le sport. Et aussi le rôle des joueurs aussi qui pose vraiment question parce que je crois que c'est révélé par Peter Schmeichel. C'est lui qui se plaint. Sûrement parce que son fils lui a rapporté, mais ce ne sont même pas les Danois qui se sont plaints d'être retournés jouer. Donc il faut que ce soit une personnalité extérieure qui révèle cela. Et c'est vrai que ça pose aussi la question du comportement des joueurs.
Et situation, je rajoute juste très rapidement, situation qui aurait été complètement différente si ça s'était passé par exemple avec France-Allemagne, avec des joueurs. Voilà, c'est un Danemark-Finlande, et c'est peut-être moins important, et l'UEFA aurait beaucoup moins écouté les joueurs, je pense, dans cette situation. Là, c'est... Voilà, c'est pas un France-Allemagne, c'est pas un France-Espagne, c'est pas un Italie-Pays-Bas, c'est un Danemark-Finlande.
Et la situation aurait été peut-être différente, et les commentaires aussi, si le Danemark avait gagné. Là, ça aurait été la belle petite histoire, etc. etc.
Oui, mais avec des... Donc si c'est très compliqué. On mettrait Copenhague en bouteille, mon cher Florent.
Il est très en forme, Olivier Thérault est très en forme. Et d'ailleurs, Olivier, puisque vous avez pris la parole brillamment, votre tacle, ton tacle, c'est sur le match de ce soir.
Mais oui,
tu respectes le conducteur.
Bien sûr, le France-Allemagne. Moi, je veux faire un tac contre les pisse-froids, les faux modestes et tous ces analystes aux pudeurs de gazelle. La France est la grande favorite de 7 euros, point barre, period, comme dirait Donald Trump. J'écoute depuis quelques jours quand même certains dire qu'il ne faut pas se voir trop grand, trop vite. Mais que diable, nous sommes champions du monde! Mbappé, il y a quelques jours, avait tout le mal du monde à l'admettre, à rappeler qu'il était champion du monde et qu'il était l'un des meilleurs attaquants au monde, et peut-être le meilleur attaquant au monde même, et qu'il était, voilà, qu'il avait la meilleure équipe de 7 euros. J'ai regardé aussi tous les matchs de ce début de compétition, parce que je suis professionnel, Florent, et je me dis que l'Euro est aussi barbant parfois qu'une journée de Ligue 1 en automne. J'ai préféré un Nîmes Dijon qu'un Espagne-Suède soporifique. Bref, tout ça pour vous dire que la France a la meilleure équipe de 7 euros, les meilleurs joueurs. Belgique, me direz-vous ? Eh ben non, la Belgique, ils n'ont pas notre charnière défensive, ils n'ont même pas vraiment de défense du niveau de la nôtre. L'Allemagne, alors, puisque c'est le match de ce soir, eh ben je vous le dis, nous leur marcherons dessus. Ce soir, je vous l'annonce, un 3-1, un bon 3-1, facile, efficace. Le rendez-vous est pris, et puis mince, de l'orgueil, que diable, de l'orgueil.
Ouh là là. Alors, il faut faire attention, Olivier, parce qu'on vous ressortira la bande.
Bien sûr, mais
dès
avec
demain,
plaisir.
Peut-être.
Mais avec plaisir. J'espère que vous la ressortirez quand ça fera 3-1 aussi.
Tout à fait. Parce qu'on connaît quelqu'un autour de la table qui avait annoncé que Julien Alaphilippe n'allait pas gagner le Tour de France. Et à 3 jours près, il était très flippé. N'est-ce pas, Emmanuel ?
J'ai Rosy, oui.
Oui. Adrien.
Non, franchement, tu as raison, Olivier, de dire qu'on a un statut à assumer. Et la grande force de cette équipe, je pense que ça aurait dit des champs par rapport à justement le parallèle de 2002, quand on avait Cissé, Trezeguet, Henry, meilleur buteur en championnat, qu'on disait qu'on était la meilleure attaque du monde, qu'on allait gagner la Coupe du Monde, l'Euro, où là, pour le coup, il y avait aussi des blessures, Pires, Zidane, qui avait un peu parasité la préparation. Là, pour le coup, c'est vraiment le staff, on l'a pu le voir, je pense, sur l'incident Giroud-Mbappé, qui a plutôt bien géré cet exercice, peut-être que d'autres sélections, avec moins de certitude, auraient finalement, ça aurait dilapidé l'héritage de 2018, et voilà, on serait parti sur une compétition galère. Mais j'ai l'impression que Didier Deschamps tient extrêmement bien son truc. Après, moi, je suis quand même satisfait de voir qu'on est dans un groupe aussi relevé d'entrée, qu'on va pas avoir ce fameux match ennuyeux contre la Suisse, le Danemark, en troisième poule, en troisième match de groupe, on va faire tourner. Là, au moins, on est dans le vif du sujet. Et c'est vrai qu'il faut assumer. Après, l'enflammade, je sais pas. Franchement, je trouve qu'on est plutôt mesuré. Je trouve qu'on est plutôt trop, dans notre droit.
Trop, non ?
Non, je sais pas. Moi, je trouve qu'on est, on est bien, on n'est pas trop. Je sais pas, c'est peut-être différentes perceptions de ma part, mais je trouve qu'on est bien.
Donc, le tacle licite.
Donc, tacle licite.
Et moi, tacle... Sanction administrative, quoi. Carton jaune, parce que on a quand même, on assiste depuis quelques jours à un dégoulis d'optimisme, moi qui me fait peur, hein, un petit peu. Quand on entend Noël Le Graët qui ce matin dit on n'a jamais eu une équipe aussi forte, etc., etc.
C'est pas de sa faute, c'est la faute des jeunes de la communication.
Attention, non mais attention, attention, attention. Qu'on soit les favoris, surtout quand on voit là tous les autres matchs, il y a aucun doute, mais soyons un peu mesurés. Ne soyons pas belges, j'ai envie de dire. Puisque c'est les vrai. Belges nous disent qu'ils sont la meilleure équipe du monde, qu'ils sont numéro 1 au classement FIFA. Donc un peu de mesure et on aura tout le temps de faire la leçon aux gens quand on aura mis 2-0 à l'Allemagne, 2-0 à la Hongrie et 2-0 au Portugal. Quoi. Attention quand même, faut pas s'emballer.
Non, je dis pas ça, mais je dis que l'orgueil fait du bien aussi et que la fausse modestie, à l'inverse, depuis quelques jours, nous cadenasse. Là, on se crée de fausses peurs, c'est exactement ça, on se crée de fausses peurs. Et du coup, ben, on sait que les Allemands, ils ont tendance à... On l'avait vu d'ailleurs avec le Bayern et le PSG, ils ont tendance à chambrer un peu avant les matchs, à mettre la pression. On est chez eux, on est champion du monde, mais on a le niveau pour aller les taper. Et il ne faut pas qu'on ait peur de quelle équipe on est. Nous sommes les champions du monde.
Et justement, cette question de l'orgueil, il faudra faire attention parce qu'Antonio Rudiger a un peu allumé la première mèche en conférence de presse en disant en gros, il fallait être présent d'entrée, je vais mettre un taquet. On a pu le voir que lui, il ne rigolait pas parce que Kevin De Bruyne s'en est sorti avec un œil au beurre noir et une petite fracture. Donc là aussi, tu parles d'orgueil, justement. C'est le moment aussi de voir si cette équipe de France a des joueurs un peu vicieux qui ont du répondant, je pense notamment à Tolisso, il faisait du côté de l'OL, à Hernandez, peut-être Kimpembe, donc là aussi ça va être une question intéressante.
Ouais, bien sûr. Et puis il faut rappeler aussi qu'on a quand même deux joueurs qui jouent à domicile aussi en équipe de France, c'est Hernandez et Pavard. Donc voilà, on n'est pas n'importe où là-bas. Hein,
il a bossé.
On connaît.
Hein.
Et puis l'Allemagne, elle n'a pas gagné depuis de nombreuses années à domicile sur un match national.
Mais l'Allemagne n'a jamais perdu un match d'Euro d'ouverture. Son premier match d'Euro, elle n'a jamais perdu. Ouais. Voilà.
Mais des difficultés à gagner à l'Allianz Arena.
Donc on peut faire une bataille de statistiques.
Comme vous voulez.
Non, mais par contre, on peut dire que... Enfin, on s'emballe, on dit que l'équipe de France, c'est la meilleure, etc. Le dernier grand match des Bleus, ça remonte hein, quand même. Moi, j'ai un souvenir d'un France-Portugal en Ligue des Nations.
Ouais, c'est là où on s'en est sorti le mieux. En plus, on était vraiment dos au mur pour le coup. C'était il y a 8 mois. Et depuis, bah, on a bien évolué parce que là, on a beaucoup d'optimisme. Mais à l'époque, c'était quand même dur. Hein. Oui. On se disait que l'équipe ne jouait pas bien. Que, voilà, et c'est vrai que c'est pour moi rassurant d'avoir vu cette performance
mais,
au Portugal.
Mais écoutez-vous, vous êtes encore... moi, j'ai osé dire un pronostic et vous êtes oui, mais faire attention, etc. Alors donnez-moi votre pronostic.
Tu as osé faire un pronostic, mais on est plus réservé parce que c'était la dernière partie de l'émission, c'est le pronostic.
Ah pardon, mais ben, tout à l'heure, restez avec nous. Vous.
En tout cas, tu seras libre demain, Olivier. Tu n'as pas besoin de venir. On va voir la VAR. Alors, le Sochalien a-t-il un avis sur les grandes nations et les grands joueurs ?
Tacle licite qui pose aussi plus généralement la question de cet esprit français face au statut de favori. On a quand même un problème avec ça, je pense. Comment on se positionne quand on est le statut de favori ? Est-ce qu'on doit évacuer la pression en disant qu'on n'est pas si favori que ça ? Ou est-ce qu'on assume un effectif quand même largement supérieur sur le papier à celui... de nos concurrents. Je pense qu'Olivier a peut-être aujourd'hui le comportement le plus courageux parce que le moins français aussi qui vise à ne pas relativiser ce statut de favori en disant « Oui, mais c'est pas facile d'arriver en tant que champion du monde. Donc un tacle tout à fait licite.
Vous savez ce qu'on dit au Stade Rennais?
Non, dites-nous.
La pression, on la boit.
On l'a dit aussi à Munich. Alors, ça va être à mon tour de faire un tacle. Alors, je vais vous poser quelques questions. Hein. Comment avez-vous trouvé Gareth Bale? Je vais y répondre. Invisible.
Ouais, voilà.
Burak Yılmaz. Fantomatique. Kane, décevant. Lewandowski. Qui ça? Lewandowski, moi je ne l'ai pas vu hier, hein, désolé. Les stars de l'Euro sont drôlement absentes en ce début de compétition. On les sent totalement cuits physiquement, mais aussi mentalement. Ces stars ne portent pas du tout leur équipe. Est-ce que vous avez regardé les stats de Gareth Bale? C'est quand même affligeant. 32% de passes ratées. On parle d'un joueur quand même de top niveau. Lewandowski, hier, n'a pas cadré un seul de ses 5 tirs. Kane, lui, n'a quasiment pas touché le ballon. Il a fait une première mi-temps absolument affligeante lors du match de l'Angleterre. Bien sûr, comme tu l'as dit, Adrien, tout à l'heure, les cadences folles de la saison peuvent expliquer ce coup de mou. Ces joueurs ont soutenu leur club pendant 8 mois, 10 mois, 1 an. Mais moi, j'y vois la fin des superstars dans les équipes nationales qui aimantent tout et qui font de l'ombre au jeu collectif. Les seconds couteaux ont le droit aussi à un peu de lumière. Donc ça fait du bien. Alors, c'est pas très optimiste pour le match des Bleus et sa ribambelle de stars. Mais moi, pour moi, j'ai envie de conclure par « Star is the limit ». Olivier.
Oui, non, bah carton rouge, Florent, c'est le premier match. Enfin, oui, bah ça arrive de rater son entrée de compétition, ça arrive au meilleur. Je suis désolé. Quand Gareth Bale vous en plantera 3 la semaine prochaine ou voire même sur le dernier match pour se qualifier, vous ravellerez votre poison de tacle. Ça arrive de faire des mauvaises entrées. Peut-être que Mbappé va passer à côté ce soir.
Donc ça confirmera mon tacle.
Mais ça confirme pas votre tacle. Non, les rythmes de la saison. Non, on le verra ça à la fin de l'Euro. On verra ça déjà à la fin des poules. Je suis désolé, on peut pas dire aujourd'hui que les stars de cet Euro sont totalement dépassés et cramés juste sur la base d'un match. Je trouve votre tact très exagéré et j'espère qu'ils vous donneront tous tort à leur prochain match.
C'est vrai que c'est un peu tôt pour commencer à dire que les stars sont absentes. D'ailleurs, vous avez oublié Romelu Lukaku, qui est pour moi une des vraies stars de cette compétition.
Est-ce que c'est une star?
Moi, je trouve que vu ce qu'il fait à l'Inter, il a pris le lead sur Eden Hazard, notamment, qui était vraiment le joueur emblématique de cette équipe belge. Les stars françaises, Cristiano Ronaldo, qui est peut-être vraiment la star emblématique, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Donc, il faut laisser un peu de temps. Mais c'est vrai qu'aussi, on peut se dire que certaines équipes auraient besoin de ces stars. Je pense notamment à l'Espagne. Et on l'a vu, le manque d'un grand attaquant dans une compétition, c'est aussi une limite. Et je pense que l'Espagne échangerait bien volontiers un Morata contre une moitié de Lewandowski pour ne serait-ce que le temps de marquer un but contre ce but suédois hier.
Lavar,
j'ai bien regardé les règles, les lois du football. L'arbitre peut sanctionner un joueur même une fois sorti du terrain dans les vestiaires, mais il ne peut pas le sanctionner quand il est encore à l'hôtel en train de prendre le petit-déj et qu'il n'a pas joué son premier match. S'attaquer aux stars alors que Mbappé, Griezmann, Ronaldo n'ont pas encore commencé la compétition, c'est quand même un petit peu osé. Remettre en cause le statut de star de Lukaku en prenant dans le tacle comme exemple Harry Kane, c'est aussi un petit peu osé. Gareth Bale, c'est pas non plus celui qu'on attendait le plus lors de cet Euro, surtout dans son équipe et son collectif qui ne le mettent sûrement pas beaucoup en valeur. Donc c'est un tacle illicite et pourtant je suis sûr que si tu l'avais fait dans 2 semaines, il serait encore valable parce que je crois comme toi à l'essor des seconds couteaux en équipe nationale, surtout en fin de saison. On se souvient que la Coupe du Monde 2014 avait fait, ou 2010 d'ailleurs, avait fait exploser James Rodriguez, c'était en 2014 plutôt, en 2010 Cuadrado, Forlan. Il me semble, Forlan. Mais là, il est un petit peu prématuré, ce tacle, quand même.
Carton plein, j'ai envie de dire.
Oui.
Nous allons passer à la dernière rubrique de ce podcast que a bien défloré Olivier Perrault, puisqu'il a déjà donné son pronostic. On va voir s'il est cohérent et s'il se souvient de son pronostic d'il y a 10 minutes. France-Allemagne. Adrien, quel est ton prono?
Je vois bien une victoire 2-1 des Bleus. Un match un peu délicat, mine de rien, parce que je pense que le système à 3 en défense de l'eau avec deux pistons, ça va embêter cette équipe. Je pense notamment à Gossens, le joueur de l'Atalanta dans la zone de Pavard, c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur. La bataille du milieu de terrain sera aussi pas mal, mais je crois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de certitudes, et c'est aussi l'Allemagne qui en a peu, mine de rien, une défaite contre la Macédoine du Nord, on se souvient du 6-0, la défaite en Espagne, donc je pense qu'on a les moyens de les battre, mais ce sera une courte victoire, mais une bonne victoire, 2-1.
Emmanuel ?
Très bonne question, je n'en ai pas la moindre idée, mais je verrais bien un match nul.
Soyez français, que diable, soyez français.
Un match nul, un partout, avec une globale domination française.
Moi, je voyais la victoire de l'Allemagne. Je confirme tout à l'heure, ça fera 3-1 pour la France. Je sens qu'on va, vraiment... alors, j'ai des petites inquiétudes, bien sûr, ça va être un match assez brutal. Ils ont annoncé la couleur, les Allemands, donc ça va être un match brutal, et j'espère et j'ose croire que justement la France va marquer des points dans les esprits de cette compétition en répondant au défi physique qui va être mis par les Allemands. Alors, j'ai un peu peur aussi sur la vitesse d'exécution des Allemands. On sait que Gnabry, c'est un joueur qui peut être vraiment très rapide et très efficace. Donc, il faudra faire attention, mais encore une fois, on a la meilleure défense. Et comme dans beaucoup de sports, c'est la défense qui fait gagner les titres.
Oh, quel talent. Il a du talent. Hein. Et moi, je vais dire, puisque moi, j'ai regardé tous les matchs de l'Euro, donc je sais l'ambiance de cette compétition, donc ce sera un beau petit 0-0. Ou un petit 1-0 de derrière 0-0 les fagots.
Avec Benzema, Mbappé,
Mais justement, vous voyez trop l'offensive. Olivier Perrault.
Mais non.
On va s'ennuyer pendant ce match, il ne va rien se passer. Voilà, il y aura des 2-3 occasions, et puis voilà... Et on sera content parce qu'on aura pris un point. Et c'est bien de prendre un point en Allemagne. Non, mais je vois plutôt, pour être sérieux, plutôt 1-0 ou 2-0 de la France. On est plus armés. L'Allemagne, j'ai l'impression qu'elle a la moindre certitude que nous. L'eau, qu'est-ce qu'il a fait depuis 3 ans? On sent qu'il travaille beaucoup, qu'il bricole. Donc,
pas été chez le coiffeur, en tout cas.
Merci. Alors ça, c'est une analyse très sympa, venant de quelqu'un qui y va 2 fois par an. Hein. C'est intéressant. Bon, en tout cas, voilà, on aura les résultats demain, puisqu'on se retrouve demain. Peut-être pas avec tout le monde. Je laisse la surprise aux
si
auditeurs.
Si j'ai raison, eh ben j'espère être là.
Non, le casting est déjà fait. Et tu n'y es pas, Olivier. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir répondu.
Merci beaucoup, Florent.
Présent. Et puis on se dit donc à demain. Bon match, et on peut quand même le dire. Allez les Bleus.
Allez les Bleus.
Le point. Le point.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.